sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un autre jour est possible, votre réveil culturel préparé avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui Hubert Jacquez. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en direct à la radio ou en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Le festival de Cannes et le cinéma français au programme de cette semaine. Et depuis lundi, c'est un jeune réalisateur, Christophe Nanga-Oli, qui dresse le portrait de la France par 5 cinéastes contemporains. Après Arnaud Desplechin lundi, Dominique Cabrera mardi, hier Céline Sciamma, aujourd'hui nous allons parler du cinéma de Samuel Collardet, une autre vision du monde du travail. En deuxième partie, je serai avec la jeune réalisatrice Houda Benyamina. Un autre jour est possible, moteur, ça tourne.
Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains, une série avec Christophe Nanga-Oli.
Bonjour Christophe Nanga-Oli.
Bonjour.
Après Arnaud Desplechin, après Dominique Cabrera, après Céline Sciamma, votre portrait de la France d'aujourd'hui à travers 5 cinéastes et leur filmographie continue. On a traité de la famille chez Desplechin, de l'histoire coloniale chez Dominique Cabrera, de l'émancipation par la sexualité hier avec les 3 films de Céline Sciamma et aujourd'hui un nouveau regard sur le monde du travail à travers Samuel Collardet et ses films. Qui est Samuel Collardet? Qu'est-ce qu'il a réalisé comme film pour commencer?
Samuel Collardet est un jeune cinéaste né en 1975. Il a réalisé 3 longs métrages. Tempête, qui est sorti récemment, en 2015. L'Apprenti, son premier film, qui est sorti en 2011. Et Comme un lion, qui est sorti en 2013.
Alors, qu'est-ce que t'en dis de ta semaine, toi?
Ouais, je crois.
Moi, je trouve que comme hier matin, qu'on était pressé puis que tu faisais rien, ça allait pas. Ponctualité. Le matin, t'as du mal quand même, hein? Oui, oui, une demi-heure pour te lever, ça fait beaucoup.
J'ai choisi Samuel Collardet pour évoquer la représentation du travail dans le cinéma français. Nous allons commencer par L'Apprenti. Donc L'Apprenti, c'est un film qui suit le personnage de Mathieu, donc un jeune adolescent dont le rêve c'est d'être paysan. Mathieu a pas mal de problèmes familiaux. Des parents divorcés, une situation qui vit donc très mal, et est en alternance dans un collège où on apprend les différents métiers de l'agriculture, et il est en échange professionnel dans une ferme où il passe la semaine, quoi. Et ce qui est très beau dans ce film-là, c'est à la fois comment l'apprentissage du travail de Mathieu, de ce travail-là de paysan, est soutenu par le développement d'un lien de parentalité avec le fermier qui l'éduque. Donc Mathieu, il apprend les gestes de la paysannerie dans cette ferme, il apprend aussi à devenir un homme, et aussi il tisse un lien très délicat avec ce paysan qui lui apprend le métier. Et ce qui joue dans ce film, c'est comment entre eux va se développer un lien de filiation et comment cet homme va devenir un père de substitution.
Attends, t'en es où, là?
Yvonne.
Yvonne, toi, continue.
Continue.
Dringue, là, je sais pas à quoi.
Odeo, compétition.
Dringue. Non.
Ça se dit comment?
Ben, dringue.
Dwing.
Voilà, ça se dit comment en anglais?
Ça se dit doing.
Bon, bah, j'étais pas loin.
Ouais, je m'appelle anglais.
Ce que travaille Samuel Collardet à partir de cette situation-là, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'une figure paternelle, je crois. Parce que c'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de ses films. Comme par exemple dans Comme un lion, où là on va suivre le parcours de Mitri, qui est un footballeur africain emmené par un agent un peu véreux. Mitri, c'est un jeune footballeur qui rêve de jouer dans un club de Ligue 1 et va se retrouver donc dans cette région-là où il y a un très grand club de foot français, le club de Sochaux. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est le lien que va tisser Samuel Collardet entre sa fiction et le travail, parce que le club de Sochaux, c'est un club de foot très particulier qui a été développé par les usines Peugeot et l'entraîneur de foot de Mitri, qui aurait pu être un joueur de foot professionnel, se trouve être aussi un ouvrier des usines Peugeot. Donc on va observer aussi des gestes à la chaîne, on va observer la relation qu'il y a dans ce prolétariat-là entre le travail à l'usine, le monde ouvrier, et puis le monde du football. Car Mitri, il a été ramené en France un peu comme de la chair à canon, comme une simple marchandise pour remplir les poches d'agents. Et ce film nous dit quelque chose aussi du monde dans lequel on vit. De la mondialisation et nous dit aussi quelque chose du monde prolétaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le travail ouvrier, comme son film précédent nous disait aussi d'ailleurs quelque chose du monde prolétaire, qu'est-ce que c'est qu'être paysan aujourd'hui. Et une fois de plus, la filiation passe par le monde du travail et non pas par la cellule familiale. Et c'est un thème qu'on retrouve dans le troisième film, Tempête.
Allô, Maëlys ?
Allô ?
Salut, Matt, ça va ?
Bien, et toi ?
Alors, ça s'est passé comment l'accouchement de ta sœur ?
C'est maman qui l'a appelé ce matin.
Et dans Tempête, on va s'intéresser au monde de la pêche industrielle. Le personnage de Dom est un marin-pêcheur qui passe pas beaucoup de temps à terre et qui va se retrouver avec la garde de ses enfants. Donc il devra faire un choix terrien contre son métier marin. C'est-à-dire comment dealer avec sa profession pour s'occuper de sa progéniture. Mais dans ce film, contrairement aux deux autres, la filiation, pour le coup, va se jouer dans la cellule familiale et contre le monde du travail. C'est-à-dire que Dom devra faire face à ses responsabilités de père et devra aussi faire face à la maternité qui arrive de sa fille. Donc ça donne lieu à d'autres problèmes. Cette fois-ci, l'intimité d'une cellule familiale est travaillée par les enjeux qui traversaient ces films précédents dans le monde du travail. On va observer que la famille aussi, c'est une organisation, que la famille demande aussi un engagement et demande une implication très forte, quoi. Et que Dan n'est pas toujours capable d'assumer.
Tu restes combien de temps ?
48 heures, on s'en parle lundi matin.
Ok, super. Je croyais que t'allais changer de bateau et que t'allais rentrer tous les soirs.
Non mais arrête tes conneries, c'est moi qui la garde.
Ce qui est intéressant dans le travail de Samuel Collardet, c'est aussi que c'est un chef-op qui s'intéresse au geste, mais qui a lui aussi un geste de cinéaste très fort, parce qu'il est derrière la caméra, que c'est lui-même qui filme ses plans, comme ça. Il a une façon de faire ses films qui est très documentaire, Donc il y a aussi un rapport entre la manière dont il filme le travail et le genre qu'il utilise pour montrer ça.
Pour justement être là tous les jours avec mon gars et avoir un minimum de vie de famille.
Il faut que tu le fasses, faut que tu te motives.
C'est quelqu'un qui travaille le réel, qui travaille à partir d'une manière réelle, dans le sens où il va caster des vrais gens, qu'il va essayer de faire rentrer dans ses scénarios qu'il a déjà écrits, et il va pas partir sur un casting d'acteurs pour raconter une histoire. Il essaie de trouver déjà des gens qui sont déjà des personnages, qui peuvent déjà écrire ou réécrire l'histoire qu'il a inventée, puis après nourrir son scénario.
Alors maintenant, cette finale, on va l'arracher. Parce qu'il n'y a que les victoires qui restent dans les mémoires, le reste c'est de la littérature. Sur tous les coups de pied arrêtés, on y est. Et on donne tout ce qu'on a, on ne calcule pas. Mais si on donne tout, c'est pas pour soi. On joue ensemble. On joue pour l'équipe. Hein, Mitri, Anthony. Allons, piste.
Occupez l'espace.
Attention, on n'est pas en place. On revient.
Ce qui est nouveau, c'est qu'il filme les gestes du travail comme si ces gestes étaient eux-mêmes scénarisés. C'est-à-dire que les gestes du travail nourrissent ses narrations, nourrissent ses histoires. Il nous raconte ce qu'est le geste d'un marin, ce qu'est le geste d'un paysan, et ce qu'est le geste d'un ouvrier. Il y a quelque chose qui circule comme ça entre une façon de faire du cinéma et de retranscrire les gestes du travail.
Un autre jour est possible par Toufik Hakem tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Houda Benyamina. Bonjour Houda Benyamina.
Bonjour Toufik.
Et c'est une journée particulière pour vous puisque vous allez montrer votre premier long métrage Divine aujourd'hui à Cannes, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs.
Absolument.
Est-ce que vous avez fait la FEMIS comme Christophe Langaoli, qui est notre tête chercheuse, qui est en train de nous faire le portrait de la France par 5 réalisateurs, 5 filmographies? Vous l'avez peut-être écouté, là, parlant du monde du travail à travers les films de Samuel Collardet. Lui, il a fait la FEMIS. Il vous connaît. Est-ce que vous êtes passé aussi par le circuit d'une école de cinéma avant d'arriver à ce premier long métrage?
Eh bien non, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait une école d'acteur à Cannes. Et ensuite, quand je suis sortie de mon école d'acteur, je me suis rendu compte que le cinéma était bourgeois, misogyne et raciste.
Et du Oula. Coup,
et du coup, je me suis dit il va falloir pour être dans ce milieu-là, le métier de comédienne ne me correspondait plus. En fait, je me rendais compte que j'avais une grande gueule et que j'avais envie de l'ouvrir et que en étant actrice, je devais porter le regard de quelqu'un, et moi je pense que j'avais vraiment une vision sur le monde, en tout cas j'avais envie de donner ma vision. Du coup j'ai commencé à réaliser des petits courts, mais moi j'appelle pas ça vraiment des courts-métrages, c'est des essais. J'ai réalisé plein de petits courts-métrages, ça a été ma formation avec l'association que j'ai créée qui s'appelle Mille Visages, et le but de cette association c'était de démocratiser le cinéma. Donc du coup, il y avait plein de jeunes qui sortaient de grandes écoles, qui n'arrivaient pas à s'insérer dans le milieu. Et à côté de ça, on avait des professionnels de l'audiovisuel qui étaient beaucoup plus confirmés, qui nous aidaient à faire nos projets. En chef de poste, par exemple, j'ai travaillé avec Ricardo Aronovitch, qui est un très très grand chef opérateur, qui a travaillé en l'occurrence avec les plus grands, et Ettore Scola, qui a accepté de faire mon premier court-métrage qui s'appelait Ma poubelle géante, qui a été produit par mon association. Et ensuite, j'ai été repérée par mon producteur qui, lui, a fait la FEMIS. Et on a fait ensemble Sur la route du paradis. Et là, on signe notre premier long métrage, tous les deux, ensemble. Donc moi, j'ai fait plutôt la FEMIS des sans-papiers. C'est-à-dire que j'ai fait toute la post-production de mon moyen métrage là-bas. Mmh. Et j'y ai beaucoup appris parce que j'ai beaucoup collaboré avec des gens de la FEMIS. Hein, parce que je trouve que c'est une très grande formation. Malheureusement, elle est pas très accessible aux gens comme moi. On va dire.
Alors, parlons de vous, Houda Benyamina. Vous avez parlé des Cannes, vous avez parlé de d'avoir fait la Fémis des sans-papiers. C'est quoi votre histoire ?
Oh là là, mon histoire.
Vous êtes cannoise, je veux dire ?
Non, enfin, je suis pas cannoise. Moi, j'ai fait une école d'acteur à Cannes. Mais sinon, je suis de Viry-Châtillon. D'une cité à côté de la Grande Bande, je ne sais pas si vous connaissez.
Bien sûr.
Voilà, moi j'habite là, j'ai grandi là. Je suis arrivée dans le cinéma, on va dire. Je suis plutôt arrivée d'abord par le jeu d'acteur et ensuite j'ai eu envie de faire des films très très vite et j'ai fait une fac d'abord de cinéma. Voilà. Moi j'ai eu la chance, quand j'étais petite, il y avait quand même des très grands films qui passaient à la télé. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir découvert des films comme Freaks de Todd Browning. J'ai vu les Melville. J'ai été nourrie au film des Torrescola. Donc voilà, j'ai une culture cinématographique, on va dire, assez...
Que vous êtes forgée toute seule ou le cinéma important dans votre famille ? Est-ce qu'on regardait en famille les films qui passaient à la télévision ? Est-ce que vos parents vous ont soutenu dans votre désir de devenir soit comédienne, soit réalisatrice ?
Non, mes parents m'ont pas soutenu. Parce que pour eux, c'est pas un métier. Pas un métier sérieux, on va dire. À part quand j'ai commencé à avoir des prix dans des grands festivals, là.
C'est la reconnaissance enfin de la famille.
On a commencé. Ma mère, elle disait même pas théâtre, elle disait théâtro. Tellement elle avait un mépris pour la profession. Mais non, je me suis battue parce que déjà, c'est une vraie passion, c'est un besoin viscéral pour moi de faire des films. Je dis toujours que quand je crée d'abord par un sentiment d'injustice. J'ai besoin de... Il y a quelque chose qui m'anime comme ça. Et puis ensuite, je décide d'avoir un acte créatif. Et puis je suis arrivée au cinéma aussi grâce à quelqu'un qui a été très important dans ma vie, qui s'appelle Grégory Proch. En fait, c'était mon surveillant à la base. Et en fait, à la base, moi, je voulais être comédienne, etc. Et il était mon surveillant. Et comme je faisais plein de conneries, qu'on m'avait renvoyé de mon collège, j'ai dû faire une formation j'ai fait un CAP coiffure, quoi. Et quand j'ai fait CAP coiffure, je lui avais coupé les cheveux, parce qu'on était toujours en contact. Et il m'a offert deux choses qui ont été très, très importantes pour moi. Il m'a offert Voyage au bout de la nuit de Céline et il m'a offert M'aider de Pasolini. Et M'aider de Pasolini, ça m'a vraiment ouvert à un autre type de cinéma. Ça a été vraiment une grosse claque. Pour moi, c'était la réconciliation entre la peinture, le cinéma et la littérature. Et grâce à lui, j'ai vu autre chose, en fait.
Vous êtes jeune, mais vous avez l'air très forte, Ouda Binyamina, parce que votre film, c'est quand même un enjeu. Hein. Votre premier film passe à la quinzaine aujourd'hui.
Ouais,
Et alors, votre sentiment ?
Moi, je suis très fière parce que d'abord, il y a plein de gens, plein de collaborateurs artistiques, moi je les appelle mes guerriers artistiques, qui ont beaucoup donné de leur personne. C'était un film qui avait un budget, on va dire, correct, mais pas le budget de ce qu'on aurait dû avoir. Donc, il y a beaucoup de techniciens, de collaborateurs artistiques qui ont beaucoup donné de leur personne. Donc déjà, cette sélection, elle est importante pour eux. Et puis ensuite, pour mon association, de dire à ces jeunes, regardez, si vous travaillez, si vous avez un amour absolu de ce que vous faites, et à un moment ou à un autre, il y a une reconnaissance.
Très bien, ok, on a compris. Et vous ? Et pour vous ?
Quoi, pour moi ?
Ouais, quand vous vivez ? Vous êtes anxieuse ? Vous êtes
Non, pas du tout, franchement, non. Non, j'ai pas de... Honnêtement, je suis pas stressée, j'ai pas peur de la presse, j'ai pas peur de la critique. Moi, j'ai toujours dit, comme Mohamed Ali, c'est pas mes défaites qui m'ont... C'est pas mes victoires qui m'ont construite, c'est mes défaites.
Ouais.
Donc j'ai pas peur. J'ai pas peur de... J'ai peur de rien, en fait.
Divine, c'est un film, vous allez voir, on va beaucoup en parler. Un film coup de poing extrême.
Pourquoi les pauvres rêvent tout, à ton avis ?
Parce que les riches, ils prennent tout.
Non, c'est parce qu'un pauvre, il n'ose pas. Il faut oser être riche. Tu fermes les yeux, tu visualises la thune, elle viendra à toi. Tu marches et tu visualises. Tu coupes et tu visualises.
Alors, comment résumer Divine, Ouda Binyamina ? Alors, moi, je dirais... Il faut toujours des repères. Je dirais que vous avez réussi à faire le « do the writing » de Spike Lee dans la France d'aujourd'hui. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Comment décrire un quartier populaire, des gens qui essayent de s'en sortir. Et puis, c'est la tragédie grecque adaptée à la banlieue, au quartier difficile d'aujourd'hui. Et quand je dis la tragédie grecque, vous savez maîtriser le ressort de la tragédie grecque et porter un regard sur la banlieue aujourd'hui. Est-ce que ce parallèle vous voit ou vous voulez donner votre propre résumé de votre film ?
Moi, ça me touche d'abord. Merci de me comparer à un maître, parce que Spike Lee, c'est un maître pour moi. Et Do the Right Thing est un film en effet très important.
Il ressort d'ailleurs en version restaurée dans quelques semaines. Ouais.
Est un film très important pour moi. Que vous disiez que c'est le premier film, bah, ça me touche beaucoup aussi, parce que c'est vrai que c'est un regard de l'intérieur, ce qui n'a pas encore été fait, je pense.
Mmh. Et c'est un regard féminin, puisque les...
Humain avant tout.
Ouais, non mais quand même.
Humain, allez.
On a tellement
arrêtez,
vu.
Parce que quand il y a un mec qui vient sur votre plateau et qui fait un film de mec, on dit pas, ah, vous faites un film avec un regard de mec.
Bon alors, Ruta Benyamina, vous avez le sens de la répartie, mais je vais pas me laisser impressionner de bon matin. Disons que lorsqu'on parle de banlieue, très souvent, c'est très masculin.
Mais moi, je parle pas de banlieue. Moi, je parle d'être humain qui habite en banlieue. J'en ai rien à foutre de la banlieue. Voilà. Ouais. Pour vous dire très clairement, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains qui y habitent. Le contexte, en effet, c'est la banlieue. Mais moi, je parle avant tout de gens qui sont exclus, qui sont hors normes.
Et vous avez pris le parti de parler des filles.
C'est des exclus dont je parle. Je m'en fous des gens de banlieue. Ça pourrait être un mec de... Oui, des filles, oui, ça pourrait être des mecs. Pourquoi quand il y a des mecs qui viennent faire des films sur des mecs, personne ne leur dit vous faites des films sur des mecs. Moi, je fais des films sur des... Il y a des sentiments. Cette nana, elle rêve de réussite, de reconnaissance, de pouvoir. Elle veut arriver tout en haut. Elle veut pas de l'argent, parce que c'est pas ça. Elle dit mes mains sont faites pour l'or. Elle cherche la dignité. J'ai pas choisi de l'argent, j'ai dit mes mains sont faites pour l'or. Parce que l'or est un métal précieux et elle a droit à ce beau, en fait. Donc pour moi, elle est pas dans des aspirations. Moi, il faut arrêter, je me définis pas par rapport à vous, les hommes. Moi, j'ai pas besoin de vous pour me définir. Je me définis toute seule. Donc, ça m'énerve. Je suis désolée, mais je vous le dis avec beaucoup de sympathie, hein. Mais j'ai pas envie qu'on me compare à des mecs. J'ai pas envie. J'existe sans vous. J'ai pas besoin de vous, quoi.
Bon.
Voilà.
Il y avait pas de femme.
Pas mal, hein.
Non, il y avait pas. Mais je peux dire qu'il y avait pas de femme dans le film de Spike Lee, alors que là.
Mais on lui aurait jamais posé la question. Lui, on lui posait des questions. Vous avez fait un film de noir.
Oui, ah bah tiens, allons-y, puisque vous êtes très en forme ce matin, et c'est vrai que c'est une journée particulière pour vous. C'est aussi un film quand même sur les enfants d'immigrés, ça on peut le dire.
Il se trouve que les personnages principaux, oui, sont issus de l'immigration, ouais, en effet. Pas tous, puisqu'il y a Jiggy aussi, qui est le danseur, et qui est blanc en fait à la base, qui s'appelle Jiggy, d'ailleurs c'est un prénom... Malien à la base. Mmh. Mais oui, et c'est
ben
des
voilà.
Français. Mmh. Ouais, c'est des Français. Moi, j'ai envie de dire c'est des pauvres. J'ai plus parlé de pauvres, en fait.
De prolétaires ou de pauvres ou de...
Prolétaires, si vous voulez. Dounia est plutôt vraiment pauvre, puisqu'elle habite dans un camp de Rome, quand même, qu'elle est obligée de voler sa nourriture pour manger. Donc, de prolétaires et de pauvres, et de gens qui sont en très grande précarité. Moi, je dis toujours, je trouve que l'histoire se répète. Je suis aussi une très grande fan d'Elia Kazan. America, America est un film très important pour moi. Je me suis dit, tiens, finalement, les choses n'ont pas vraiment évolué depuis America, America, que les choses se répètent, qu'aujourd'hui, on est soi-disant le pays de l'intelligentsia, de la culture, etc. Et en même temps, à côté de ma banlieue, il y a des camps de Roms qui poussent à foison. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il n'y a pas que des Roms qui habitent. Il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Antillais, il y a de tout, en fait. Parce que moi, j'ai fait un vrai travail de terrain. C'est-à-dire que quand je travaille sur un sujet, je vais sur le terrain pendant de longs moments. Et ça a été un choc pour moi de voir que, bah, il y avait de tout, quoi. Il y avait de tout dans ces camps de Roms.
Pourquoi ça s'appelle Divine?
Parce qu'elles sont divines, parce que au début ça s'appelait bâtarde. Mmh. Et j'avais trop envie qu'il y ait une tête de bicote et une tête de négresse, et dessus il y a marqué divine, quoi. Il y a pas marqué bâtarde, il y a marqué divine. Elles sont divines.
Oh, comment, vous que le... comment vous parlez? Comment vous parlez, Ruta Benyamina?
Mais c'est vrai, quoi. C'est ouais. La vérité. Elles sont noires et arabes. Enfin, je veux dire noires et arabes dans le sens où vous parlez de l'immigration. C'est important pour moi aussi. C'était important d'avoir ces deux visages. Déjà, elles sont belles, elles sont souriantes, elles sont victorieuses et elles sont divines. Et le divin n'est pas forcément. Il est aussi féminin. Elles ont cette divinité, elles la portent en elles, quoi.
Mais alors, sans spoiler le film, je peux dire qu'elles sont rattrapées par la tragédie.
Oui, avec Romain Compain, mon scénariste, qui est vite intervenu dans le projet. Parce que moi, je ne me considère pas comme scénariste. J'ai beaucoup trop de respect pour la profession. On ne s'improvise pas chirurgien. Il faut des années, j'ai beaucoup trop de respect, on va dire, pour la dramaturgie. Moi, j'ai l'impression que j'ai le sens, le fond, et j'ai eu besoin de quelqu'un comme Romain, qui est un très, très grand scénariste avec une sensibilité de dingue. Et ensemble, je lui dis, voilà, moi, je veux une histoire. Il me dit, ouais, mais attends, moi, je connais rien à la banlieue. Je dis, bah, ça tombe bien, moi, j'ai pas envie de faire un film de banlieue. L'amitié, ça te dit quelque chose? L'amour? Il me dit, ouais, ça me dit un truc. Je dis, bah, on va travailler ensemble. Et ça a été hyper fort parce qu'on a eu une vraie collaboration ensemble et on a eu envie de cette tragédie. Moi, j'avais envie de grands sentiments. comme je vous l'ai dit, moi, je suis une grande fan des films d'Ettore Scola. Autour de moi, il y a des personnages hauts en couleur et qui sont à la fois beaux, laids, qui sont à la fois drôles, tristes, qui sont à la fois lumineux, sombres. Et j'avais envie de ça, en fait. Je trouve que la tragédie, en plus, je viens du théâtre, moi, à la base. Donc, Sophocle, c'est des gens qui m'ont aussi nourri. Donc, j'avais envie de, oui, en effet, de cette tragédie. J'avais envie de grands sentiments, on va dire. Et puis, la tragédie, au sens, on va dire, au sens religieux du terme, en fait, dans le sens où tu as une action, tu as forcément une réaction. Et ce qu'elle pose, Dounia, au début, a forcément une conséquence sur sa vie.
Qui joue le rôle de Dounia ?
Eh bien, le rôle de Dounia, c'est Oulaya Mamra, qui est ma petite sœur. Et elle a été... je l'ai formée depuis l'âge de 11 ans. Au début, elle c'était ma première élève dans mes cours de théâtre de MJC, parce que j'avais personne, donc il fallait bien que je les remplisse. Du coup, je la prenais, elle et mon petit frère.
Ouais.
Et en plus, c'est marrant parce qu'elle me dit « Ouais, je vais être comédienne. » Je dis « Tu ne seras pas comédienne. » Je dis « Écoute-moi bien, c'est un métier sérieux, il faut être passionné, il faut que tu en aies envie, il faut que tu sois capable de mourir pour ça, quoi. » Et elle me dit, au début, elle dit « Bon, ok, elle faisait comme ça. » Enfin, je pense qu'elle est tombée, comme on dit, dans... Elle est tombée dedans et elle est et moi je faisais tout pour pas qu'elle le soit en fait finalement. Et quand j'ai écrit le film, elle me dit je veux passer le casting. Je dis non mais franchement en plus moi même si j'habitais dans un quartier on va dire sensible, j'ai tout fait pour que mon petit frère ma petite sœur soit dans un lycée catholique privé. Donc du coup Oulaya, elle a fait 10 ans de danse classique, elle était dans un lycée catholique privé, etc. Donc je dis t'es pas le rôle, Dounia c'est une meuf plutôt comme moi qui se faisait virer de son collège, qui a une grande gueule, etc. etc. Et du coup, elle me dit, pendant un an, elle me dit « Non, je veux être le personnage, c'est moi le personnage ». Elle s'est fait virer de son lycée catholique, elle s'est inscrite à la boxe et elle s'habille exactement comme Dounia tous les jours.
C'est-à-dire comme une dealeuse, une jeune dealeuse
Ouais, elle a fini par s'inscrire au lycée ZEP d'à côté de chez moi. Et on a fini par même l'appeler la roumaine tellement elle s'identifiait au personnage. Et puis moi, j'avais aussi pas envie de travailler avec ma petite sœur parce que je me suis dit « Oh là là, je vais être tellement dure avec elle parce que moi, je suis un dragon sur un plateau ». Et j'avais peur que ça abîme notre relation, en fait, parce que je savais que j'allais lui demander de jouer des choses très complexes, que j'allais pas lui faire de cadeaux, et qu'en plus, comme c'est ma petite sœur, j'allais être encore plus dure avec elle, beaucoup plus dure que les autres.
Est-ce qu'à travers ce film, cette expérience, vous voulez participer aux débats sociopolitiques
non.
qui plombent la France d'aujourd'hui ?
Non.
Houda Benyamina.
Non.
Alors, à quoi ça sert d'avoir
fait ? On m'a déjà
demandé,
j'ai dit non.
Ouais, ouais. Alors, à quoi ça sert d'avoir fait ce film ?
Ben, moi, je fais un film politique.
Ah, bah oui, c'est exactement le sens de ma question.
Exactement. Et je fais un film, mais j'ai pas besoin qu'on m'invite pendant les émeutes. Je dis les émeutes, mais je pourrais dire d'autres pendant les attentats.
Non, mais c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que le fait d'avoir fait ce film, particulièrement ce film, ce premier long métrage, est pour vous une sorte d'engagement politique ?
Oui. Moi, je dis toujours, il faut mettre Moi, je mets de l'engagement dans mon art et de l'art dans mon engagement.
Divine, on va beaucoup en parler. Donc c'est peut-être votre premier passage radio à France Culture, mais sans doute pas le dernier. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Houda Benyamina, cette interview est à retrouver sur franceculture.fr. Demain, on se retrouve pour la suite de notre portrait de la France par 5 cinéastes contemporains. Demain, on parlera des films de Virgile Vernier, il n'est pas très connu. Mais il sera question de l'identité nationale quand le folklore fait retour dans le contemporain. Et en deuxième partie, pour l'actualité de la bande dessinée, Thomas Azuelos. Bonne matinée, à demain.